Nous allons tout de suite rendre grâce au Seigneur et l'adorer. Commençons par lire le psaume 95, psaume 95. Levons-nous pour le lire. Venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, présentons-nous devant lui avec des actions de grâce, poussons vers lui avec des cantiques, des cris de joie. Car le Seigneur est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Lui, dans la main duquel sont les profondeurs de la terre et à qui appartiennent aussi les sommets des montagnes, c'est à lui qu'appartient la mer, c'est lui qui l'a créée. Et la terre ferme, ce sont ses mains qui l'ont formée. Verset 6, « Venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons les genoux devant le Seigneur, notre Créateur. » Verset 7, « Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Verset 8, « N'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme à la journée de Massa dans le désert. » Verset 9, « Là où vos pères m'ont tenté, m'ont éprouvé alors qu'ils voyaient mes actions. » Verset 10, « Pendant 40 ans, j'ai eu en horreur cette race en disant, « C'est un peuple au cœur égaré, mais ils n'ont pas voulu connaître mes voies. » Verset 11, « Je jurais, donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon lieu de repos. » Chers frères et sœurs, nous aimerions en savoir plus sur les voies de Dieu. Nous aimerions entendre davantage de sa part ce qu'il a à nous dire. Nous ne voulons pas endurcir nos cœurs, même cet après-midi, mais nous sommes venus avec des cœurs et des bouches ouverts. Et comme il a déjà été dit ici en introduction, venez, acclamons le Seigneur, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut, approchons-nous de sa face avec des actions de grâce, poussons vers lui des cris de louange. Je crois que nos cœurs et nos bouches ne devraient pas rester fermés, mais que nous devrions nous ouvrir pleinement devant lui et confesser qu'il est notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui nous a aussi créés, toi et moi, à la louange de son nom. Ne l'exalterons-nous pas? Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Frères et sœurs, il nous a rachetés, il nous a rendus libres, il nous a délivrés de nos péchés. Nous sommes sa propriété, non seulement pour le temps, mais aussi pour l'éternité. Et c'est pourquoi, je pense, nous avons toutes les raisons d'ouvrir notre bouche et notre cœur et de le remercier et de l'adorer du plus profond de nos cœurs. Faisons-le ensemble maintenant. Père céleste, nous venons maintenant tous ensemble avec nos cœurs, avec nos bouches, pour te remercier, ô Dieu, de ta fidélité, de ta grâce, de ta rédemption, de ton salut, de tout ce que tu as fait pour nous par grâce. Et ce qui est encore plus spécial, Seigneur, c'est que tu nous as révélé ta volonté et ta parole en ces derniers jours et en ces derniers instants de ce temps. Seigneur, nous te remercions, toi qui as créé le ciel et la terre. Nous t'adorons, ô Seigneur. Nous t'aimons, ô Seigneur. Nous, ton peuple, le troupeau de ta main, que tu as racheté, racheté par ton sang, Seigneur. Tu as payé le prix, à Golgotha, Seigneur, tu as proclamé que tout était accompli. Seigneur, nous t'adorons cet après-midi et nous sommes si heureux de pouvoir t'appartenir, non seulement pour ce temps, mais aussi pour l'éternité. Alléluia! Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la gloire et l'honneur. Alléluia! De notre cœur et de notre bouche à tous, Seigneur, adoration à ton nom glorieux. Amen. Cet après-midi, il ne me sera pas facile de parler. Je ne me sens pas très bien depuis dimanche dernier. Je vais simplement essayer de lire quelques paroles et je demanderai à Dieu de nous parler, car sa parole ne revient pas à vide. Elle accomplit toujours ce pourquoi elle a été envoyée. Nous avons souligné ce week-end que des hommes de Dieu étaient sous une parole prophétique. Le Seigneur, donc, Dieu le Seigneur, pardon, leur a parlé, leur a donné un mandat pour exécuter quelque chose ou l'annoncer prophétiquement. Et tous ces hommes de Dieu, qu'il s'agisse de Moïse, d'Élie, quel qu'il soit, Dieu avait parlé. Et cette parole de Dieu était ancrée dans leur âme. Élie pouvait se tenir sur le mont Carmel et dire, pour que vous sachiez et reconnaissiez aujourd'hui que le seul vrai Dieu est le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et que j'ai fait tout cela selon sa parole. Pas seulement fait, mais fait selon sa parole. Les hommes de Dieu n'ont pas seulement fait quelque chose, mais ce qu'ils ont fait a été fait selon la parole du Seigneur. Il est écrit au sujet de Noé, et Noé le fit. Il fit tout exactement comme Dieu le lui avait ordonné. Il est écrit de Moïse qu'il fit tout comme Dieu le lui avait montré sur la montagne sainte. Tous les hommes de Dieu ont fait exactement ce que Dieu leur a montré, ce qu'il leur a dit et ce qu'il leur a révélé par grâce. Et nous croyons que nous vivons dans le temps prophétique et non dans le temps des juges, dont il est écrit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est ce qui est écrit à la fin des juges. Non, nous vivons dans une époque prophétique et il est nécessaire de reconnaître que Dieu a envoyé une parole prophétique pour conduire et guider son peuple. Et nous constaterons à la fin de notre pèlerinage que tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entrent pas dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui ont fait la volonté de Dieu. Et vous savez que justement, dans le mouvement charismatique, il y a un mot d'ordre. Et ce mot d'ordre est Jésus est Seigneur. C'est le mot d'ordre. On le porte sur les plaques qui sont joliment allumées devant lors des congrès. Cela s'appelle Jésus est Seigneur. Mais la question est de savoir si ces gens ont vraiment reconnu ce que signifie quand les Saintes Écritures disent que Jésus est Seigneur. Si nous disons « Il est Seigneur », nous disons par cela qu'il est Dieu, car le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu. C'est ce qu'ils ont proclamé à l'époque du prophète Élie. Il s'agit donc de bien plus qu'une simple formulation biblique. Une formulation biblique ne rend pas la chose biblique pour autant. Il doit s'agir d'une révélation par l'Esprit de Dieu. Si la révélation divine fait défaut, nous aurons beau aligner les lettres et utiliser des slogans ou des phrases, cela ne servira à rien. C'est pourquoi nous réalisons combien il est important que Dieu nous ait révélé sa volonté par sa parole en ce temps. Dans Apocalypse, au chapitre 1, nous lisons les versets suivants. Apocalypse, chapitre 1, il est écrit ici du verset 9, la dernière partie. J'étais venu dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Ces quelques mots ici. Jean était venu sur l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus. Non pas comme un touriste, non pas comme quelqu'un qui voulait voir ou vivre quelque chose, mais exilé dans la volonté de Dieu. Un homme exilé dans la volonté de Dieu est mieux loti que celui qui peut se promener librement sans être dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, si Dieu place un homme dans une situation quelconque pour révéler sa parole et le témoignage de Jésus, alors la captivité et aussi l'exil sont justifiés pour toujours. Et nous pouvons alors le supporter. Au chapitre 19, le même Jean témoigne, dit, je veux dire Apocalypse 19, c'est là que cet homme de Dieu écrit à partir du verset 9, Apocalypse 19, verset 9, puis il me dit, écrit, bénis sont ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Il me dit encore, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Verset 10, je me suis donc prosterné à ses pieds pour l'adorer, mais il m'a dit, garde-toi de le faire. Je ne suis qu'un co-serviteur de toi et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. En effet, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Nous en avons parlé au cours de ces deux réunions qui sont derrière nous. La parole prophétique, la prophétie de l'Écriture accomplie sous nos yeux. Jean avait le témoignage de Jésus et le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Pas le don de prophétie, mais l'esprit de prophétie. La prophétie biblique a rendu témoignage à Jésus-Christ. Et c'est comme un fil rouge qui traverse toutes les saintes Écritures. Si nous lisons correctement la parole de Luc 24 et prenons en compte ce qui y est écrit, nous voyons à quoi le Seigneur Jésus se réfère. Il dit ici, du verset 25, Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Pour croire à tout ce que les prophètes ont annoncé, l'Esprit de Dieu était sur les prophètes. Et c'est par le ministère des prophètes que le témoignage de Jésus-Christ a été présenté à l'avance et qu'il a ensuite trouvé son accomplissement. Nous voyons ici que le Seigneur Jésus fait référence à cela et dit « Pour croire à tout ce que les prophètes ont annoncé. » Le verset 27 ici dit « Puis il commença par Moïse et tous les prophètes et leur exposa toutes les Écritures qui se rapportaient à lui. » Il n'a rien omis. Il a dit à ses disciples tout ce qui s'était passé autrefois. Chaque prophétie, chaque déclaration qu'un prophète avait faite, il l'a justifiée et l'a rappelée à ses disciples. Que ferait-il aujourd'hui? Aujourd'hui, il ferait la même chose. Il prendrait cette écriture sainte que nous avons entre les mains et il dirait, aujourd'hui, tous ces passages de l'écriture ont été accomplis sous vos yeux. Si nous considérons l'époque dans laquelle nous vivons actuellement, nous devons dire à 100% que cette époque est sous le coup de déclarations prophétiques de toutes sortes. Les événements mondiaux sont placés sous le signe de la prophétie biblique. Les événements avec Israël sont placés sous le signe de la prophétie biblique. Ce qui se passe avec l'Église est sous la prophétie biblique. Et ce qui se passe à la maison aussi. Maintenant, vous pourriez dire, oui, une minute. Mais là, tu t'es trompé. Non, je ne me suis pas trompé du tout. J'ai simplement dit ce que la parole de Dieu dit déjà. L'ensemble de l'état actuel, l'évolution du début à la fin, fait déjà partie de la parole prophétique. Peut-être devrions-nous lire à ce sujet les paroles connues, oui, toutes les paroles connues, par exemple une partie de 1 Timothée du chapitre 4 où il est écrit au verset 1 et 2. 1 Timothée 4, verset 1 et 2. L'Esprit annonce expressément que dans les temps à venir, certains abandonneront la foi parce qu'ils se tourneront vers des esprits trompeurs et des doctrines provenant de démons. Séduire, verset 2, par le comportement hypocrite de discoureurs, de mensonges qui portent la marque de la culpabilité dans leur propre conscience. Ici, l'Esprit annonce ce qui se passera généralement à la fin des jours. Pas seulement des enseignements pervers, mais des enseignements qui sortiront sous l'inspiration des démons. Non seulement des déviations par rapport aux vérités bibliques, mais des choses qui proviennent effectivement des démons seront annoncées. Et alors quelqu'un pourrait penser, alors ce seront des gens qui se verront du premier coup. Justement, ce n'est pas le cas. Et c'est là que réside le problème. On ne peut le voir sur personne. Chaque être humain ne regarde l'autre que jusqu'au front. Que jusqu'au front. Et dans le jardin d'Éden, lorsque la belle conversation avec Ève a eu lieu, personne n'aurait pu imaginer tout ce que cela allait t'entraîner. Et pourtant, nous le savons aujourd'hui. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, il est écrit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Au verset 2, « Car alors les hommes seront égoïstes et convoiteront l'argent, vantards et orgueilleux, dépendants à la médisance, désobéissant à l'égard de leurs parents, ingrats, sans Dieu. » Verset 3, « Sans amour ni fidélité, calomniateurs, intempérants, débauchés, ennemis de tout bien. » Verset 4, « Traite, emporté et présomptueux, plus attaché au plaisir qu'à l'amour de Dieu. » Verset 5, « Ils garderont l'apparence de la piété, mais en renieront la puissance intérieure. » Ou alors ne la feront pas connaître, dit frère Franck, note du traducteur. Détourne-toi de ces gens-là. Bien-aimé, cette parole ne s'adresse pas à des non-croyants, mais à des croyants. Ils garderont encore l'apparence de la piété. Ils s'y accrocheront. Chacun aura l'impression, « Oh, ça c'est un frère, ou ça c'est une sœur. » Cette parole, je le répète, ne s'adresse pas du tout aux non-croyants. Non, ils seront tous, et je dois me laisser interpeller moi-même, car il serait vain de ne viser que les autres, alors que Dieu nous tend lui-même son miroir à tous. Posons-nous ensemble la question de savoir comment Dieu nous classe. Il ne s'agit pas de savoir comment les gens nous classent ou comment nous nous classons nous-mêmes, mais comment Dieu nous classe effectivement. Ici, ce sont des hommes qui vont préserver l'apparence de la piété, la nature, la forme de la piété, et ce, bien sûr, à tout prix, mais parce qu'il s'agit de la fin des temps, parce que cela tombe dans une période prophétique, Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre, n'a pas omis cette partie prophétique, mais l'a déjà fait dire à l'avance. Examinons-nous en énumérant à nouveau tout le registre. Je pense que chacun recevra un coup, car l'un ou plusieurs peuvent tout de même s'appliquer à nous. Il est dit ici au verset 2, car c'est alors que les hommes seront égoïstes. Qu'est-ce que l'égoïsme? C'est une question. Nous pouvons en parler 100 fois, sans même avoir la pensée de comprendre ce que cela signifie réellement. L'égoïsme. Le deuxième terme est convoiter l'argent. Eh bien, je suis sûr qu'aucun d'entre nous ne l'est, car nous n'en avons pas assez. Eh bien, c'est justement là que réside la détresse. Celui qui a assez ne convoitera pas, il ne sera donc pas avide. Seul celui qui n'a pas assez peut l'être. L'autre pense à la manière de le dépenser ou à ce qu'il peut en faire. Donc, en deuxième lieu, être cupide. Ensuite, vient vantard. Oui, à qui cela s'applique, je ne sais pas. Ensuite, vient orgueilleux. Là encore, nous ne savons pas exactement qui l'est ou qui ne l'est pas. Ce que nous savons, c'est que Dieu doit nous accorder la grâce de nous regarder dans la lumière, dans sa présence. De nous-mêmes, nous n'avons aucune possibilité de nous voir à la lumière de Dieu. Ensuite, la dépendance à la médisance. Oui, qui a la manie de médire. On ne le sait pas non plus. Ceux qui sont dépendants le savent peut-être, mais parfois, nous le voyons bien dans les choses extérieures, les gens ne peuvent pas s'empêcher d'être dépendants. Ils font des cures de désintoxication et quand la dépendance est là, elle les dévore. Et ils doivent avoir ce que la dépendance est. Et pourtant, c'est une parole prophétique ici. Et il n'y a pas de pouvoir qui puisse arrêter ou empêcher ce que la parole de Dieu a dit. Il y a en effet, comme vous le savez, le mouvement pour la paix. Et ce n'est pas seulement l'évêque Scharf qui l'a dit pour la première fois à l'Assemblée de l'ONU, que les épées doivent être forgées en soc de charrue. Mais Dieu a dit que l'anéantissement viendra sur le monde entier. Et ce n'est qu'après cette destruction qu'ils transformeront les socs de charrue ou les épées en socs de charrue. Avant cela, ils transformeront les socs de charrue en épées, c'est écrit. Il n'y a aucune puissance dans le monde, aucune puissance politique, rien n'est là pour détourner ou changer ce que Dieu a dit à l'avance. Tout se déroulera exactement comme il est écrit. Mais il nous est dit ici à haute voix, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car votre délivrance, votre rédemption approche. Luc 21, verset 28, il nous est dit, ici je vous enverrai le prophète Élie. Il nous a été dit, je vous enverrai le prophète Élie, avant que vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Et Pierre a décrit ce jour plus en détail au chapitre 3, au verset 10. Et il a dit là-bas, 2 Pierre 3, verset 10, « Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments se dissoudront dans l'ardeur de la flamme. Et la terre, avec toutes les œuvres des hommes qu'elle renferme, se fondra dans le feu. » C'est ce qui est écrit. Ils peuvent faire une solution 0 ou une plus moins 1 ou une moins 0, 1. Tout cela n'a aucune importance. Toute solution qui est faite politiquement n'est pas la solution de Dieu. Est-ce vrai? À 100%. Il n'y a qu'une seule solution et c'est la solution de Dieu. Et Dieu ne résoudra pas son affaire par des négociations autour d'une table politique, mais en faisant en sorte que ce qu'il a dit arrive coup sur coup et personne n'y échappera. Même les hommes qui seront alors assis à la table des négociations n'échapperont pas, car c'est la parole prophétique de notre Dieu. Toute cette époque est placé sous la prophétie biblique. Nous pourrions maintenant aller à l'Apocalypse, nous pourrions ouvrir le 7e chapitre, le 10e chapitre, nous pourrions ouvrir le 13e chapitre, le 17e chapitre, nous pourrions lire partout de quelle manière Dieu a dit à l'avance ce qui allait arriver. Mais il n'y a qu'un seul groupe de personnes qui peut se soumettre à Dieu. Et ce sont ceux à qui Dieu a parlé. Tous les autres pensent et parlent en dehors de Dieu. Ils n'ont aucune compréhension intérieure de ce que Dieu a prévu. Il est dit des prophètes, il a fait connaître ses voies à Moïse, ses grandes œuvres aux enfants d'Israël. Et nous avons déjà entendu hier soir, Dieu ne fait rien. Il révèle d'abord ses secrets à ses serviteurs, ses mystères, ses secrets à ses serviteurs et les prophètes. Il ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous vivons la plus grande période de toute l'histoire du salut. Jamais il n'y a eu autant de prophéties bibliques. Jamais une génération ne s'est trouvée sous une telle abondance de déclarations prophétiques que maintenant, à cette époque. De toutes les manières, politiques, économiques, internationales, divines, bibliques, tout est ici contenu dans la parole de Dieu. Et comme nous pouvons être reconnaissants que Dieu ait ouvert nos yeux, ait ouvert nos cœurs, que nous puissions tout recevoir et prendre tout cela à cœur. Il est ensuite écrit dans 2 Timothée 3, maintenant le verset 2, la deuxième partie, désobéissant à ses parents, ingrats, sans Dieu. Verset 3, sans amour, ni fidélité, calomniateur, intempérant, débauché, ennemi de tout bien. Verset 4, perfide, léger et présomptueux, plus à donner au plaisir qu'à Dieu, qu'à l'amour de Dieu, qu'à l'amour de Dieu. Bien-aimé, telle est la description et l'image de l'humanité dans ces derniers temps. L'apparence extérieure de la piété, elle sera encore préservée. Tout le reste, ce qui se trouve sous cette apparence extérieure, sera déjà en ruine, n'existera plus. On parle d'amour, mais on doit haïr. On parle de reconnaissance et on est ingrat. Tout le contraire de ce qui devrait être. Il n'en a jamais été ainsi sur terre depuis que les hommes existent. Mais grâce à Dieu, il y a un petit groupe qui échappera à tout cela pour se tenir devant le trône de Dieu. Une foule qui se penche, qui s'incline sous chaque parole de Dieu et qui dit simplement, Seigneur, est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce que cela s'applique à moi? Qu'as-tu à me dire? Qu'est-ce qui me manque? Que puis-je faire pour te plaire? Dans notre vie, cette question reviendra sans cesse si nous voulons subsister et tenir devant Dieu. Nous n'aurons plus envie de juger ou d'évaluer les autres. Nous aurons tout intérêt à nous regarder nous-mêmes à la lumière de Dieu, dans la lumière de Dieu, et à savoir si nous pouvons ainsi, tels que nous sommes, subsister devant lui. À quoi sert toute connaissance des choses de Dieu si nous ne pouvons pas subsister devant lui? Nous avons souvent lu qu'il est dit d'Enoch que il était agréable à Dieu, que la faveur de Dieu, le bon plaisir de Dieu reposait sur lui et que par l'Esprit de Dieu, il eut le témoignage qu'il était agréable à Dieu et il fut enlevé et ne fut plus trouvé sur la terre. Il faut que tous ceux qui font partie de l'Église épousent, reçoivent de l'Esprit de Dieu le témoignage qu'ils sont agréables à Dieu et qu'ils savent intérieurement qu'ils seront présents lorsque le Seigneur Jésus reviendra. C'est aussi la raison pour laquelle Dieu nous a parlé. Certains pensent que Dieu a parlé pour nous condamner. Non, Dieu a parlé pour nous sortir de la condamnation, de ce qui ne peut pas subsister, se tenir devant lui et pour nous placer sous la bénédiction de Dieu. Tous les hommes de Dieu ont été bénis. Nous pourrions lire à propos d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et vous constateriez très vite de quelle manière Dieu a béni ceux qui étaient sous une parole prophétique. Il nous est dit d'Abraham dans Genèse 12, verset 1. Genèse 12, verset 1. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. » Au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai celui qui te maudit. Et en toi seront bénis toutes les races de la terre. » Nous voyons encore cette parole jusqu'à aujourd'hui. Tous ceux qui ont béni Abraham et sa descendance ont été bénis. Tous ceux qui s'en sont pris à eux ont été punis. Et cela de la pire des manières. Il y a une parole très spéciale concernant Isaac. Dieu l'a béni de manière puissante et a peut-être rendu témoignage à ce qui ressort comme l'accomplissement d'une prophétie ou d'une promesse. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays-là et il moissonna cette année-là le centuple, car le Seigneur le bénit. Vous aimez, mais bien-aimé, Isaac était un enfant de la promesse. Dieu ne l'a pas béni seulement 30 ou 60 fois, mais au centuple. Dieu lui a donné au centuple de ce qu'il avait, et c'est en cela que consistait la bénédiction visible de Dieu. Or, vous savez qu'il est allé à la fontaine du Dieu vivant. Parfois, il y a des choses dans les Écritures qui doivent absolument d'être prise en compte. Nous pourrions lire à propos d'Abraham, tout comme à propos de Zacharie, avec l'holocauste qu'il devait offrir. Vous pouvez le lire dans Genèse 22, mais je me contente maintenant de lire le même chapitre à partir du verset 13. Genèse 22, verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Verset 14, Abraham appela ce lieu « Le Seigneur voit ». C'est pourquoi on dit encore aujourd'hui sur la montagne où le Seigneur est vu. Pas seulement là où le Seigneur est vu, mais là où les hommes de Dieu ont vu le Seigneur. Le Seigneur voit partout, mais il n'est pas vu et n'a pas été vu partout. Il y avait un endroit où le Seigneur voyait et où il était vu. Et vous, bien-aimés, c'est essentiel, non seulement de savoir que le Seigneur voit, mais aussi qu'il est vu, qu'il est entendu, qu'il est vécu, expérimenté. Nous voulons chercher et trouver un tel lieu au nom du Seigneur. Non seulement là où il voit, là où il est vu, non seulement là où on parle de lui, mais là où on l'écoute, là où on entend ses paroles sans équivoque et mauvaise compréhension. Et là où les hommes le croiront, il se manifestera aussi. Là, il pourra répondre comme il l'a fait avec Abraham. Dieu a répondu à celui qui avait la promesse, qu'il a cru et qui a agi en conséquence. Mais bien aimé, nous croyons que nous aussi avons la promesse de Dieu et que le Seigneur ne se contente pas de voir, mais qu'il peut être vu et expérimenté. À l'époque où il était ressuscité d'entre les morts, il s'est mis en route vers Emmaüs et a parlé à ses disciples. Leurs yeux étaient tenus, mais il était avec eux. Et lorsqu'il a commencé à parler, leurs cœurs se sont mis à brûler. Il en est de même aujourd'hui. Il est un Dieu qui parle, un Dieu qui bénit, un Dieu qui se révèle. Et nous devons nous attendre à cela, compter sur cela. Bien-aimés, permettez-moi de le dire aujourd'hui. Tant que nous nous réunirons dans la seule pensée d'entendre ou alors d'écouter la parole de Dieu, nous n'entendrons et écouterons que la parole de Dieu. Mais nous devons nous réunir dans la pensée d'expérimenter personnellement Dieu, d'avoir une rencontre avec Dieu. Et alors nous aurons une rencontre avec Dieu. Nous aurons une rencontre avec lui. Alors nous recevrons ce qui est dans notre cœur en tant que foi. Si nous nous contentons de la première, donc de l'écoute, et la seconde ne viendra certainement pas. Mais si nous entendons la parole et que la parole provoque en nous la foi et un désir de faire l'expérience de Dieu après avoir reçu la promesse de sa parole dans notre cœur, alors nous ferons aussi l'expérience de Dieu, et cela dans le lieu où nous sommes en train d'entendre et d'écouter sa parole. Qu'en était-il de Zacharie? Il est venu là pour faire le service selon la coutume dans le temple du Seigneur. Mais Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a entendu la promesse et il l'a expérimenté personnellement. Il a vécu. Lorsque Dieu adresse la parole de la promesse aux hommes, c'est dans le but qu'ils reçoivent et vivent la promesse reçue. Dieu ne crée pas seulement une fin, Dieu l'apaise. Il ne se contente pas de donner le désir, mais il veille à ce que ce qui permet de l'assouvir nous soit accordé par grâce. Si nous sommes réunis ici aujourd'hui, et cela au nom du Seigneur, si nous prenons conscience que Dieu nous a vraiment parlé en cet âge prophétique, et cela par révélation divine, alors nous avons le courage et la raison d'entrer en sa présence et d'attendre sa révélation et de la vivre personnellement. Personne ne s'est contenté de quitter le lieu avec la seule promesse qui lui avait été faite. seulement avec la promesse qui lui avait été faite. Personne ne s'est contenté de ça. Non. Avec la bénédiction, avec la promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu est liée. La bénédiction de Dieu et l'accomplissement de la promesse sont liés à la promesse. Puissent nos services divins devenir ces services divins-là qui puissent nous où Dieu peut nous interpeller et faire grandir en chacun de nous ce que chacun doit vivre avec Dieu à l'heure même où ils sont réunis, à partir des paroles de Dieu qu'il écoute et qu'il reçoit. Et quelle que soit notre préoccupation, le Seigneur est le même. Devons-nous lui dire aujourd'hui comment il doit sauver ou guérir ou libérer ou délivrer ou bénir? Il a déjà fait tant de fois. Il veut le faire à nous, aujourd'hui, le faire aujourd'hui, dans ce service divin. Nous ne pouvons pas toujours rentrer chez nous sans avoir expérimenté personnellement ce que nous avons reçu, ce que nous avons écouté et entendu, et dire « Ah, c'était une belle prédication, oh, c'était merveilleux aujourd'hui ». Non, Dieu n'est pas satisfait par cela. Il envoie sa parole, il veut que nous puissions la croire. Et pour autant que nous la croyons, il veut confirmer cette parole dans ta vie et dans la mienne et en faire une réalité en sa présence. Nous n'avons pas seulement le privilège de venir en sa présence pour entendre sa parole, mais aussi le droit d'attendre la réalisation et l'accomplissement de sa parole. Non pas dans l'incrédulité, comme si Dieu devait encore faire quelque chose, mais dans la foi qu'il l'a déjà fait. Ça, c'est la foi que Dieu veut nous donner. C'est la foi en l'œuvre accomplie sur la croix à Golgotha, la foi qui est déjà la victoire, qui a vaincu le monde et qui ne dépend pas d'abord de ta situation ou de la mienne pour ensuite donner la victoire. Non, nous croyons que Dieu a déjà donné une victoire totale en Christ sur la croix à Golgotha. Ce n'est pas toi ni moi qui perceront. Jésus-Christ a vaincu à Gethsémané. Sa sueur est tombée à terre comme des gouttes de sang. Il a vaincu. Il a percé. Il a payé le prix à Golgotha. Le rideau du temple s'est déchiré. Le sang est sur le trône de la grâce. Le chemin est libre dans la présence de Dieu. Oh, nous pouvons expérimenter Dieu aujourd'hui. Personnellement, aujourd'hui, en cette heure, nous pouvons vivre personnellement ce qui s'est passé à Golgotha et l'emporter chez nous comme une réalité divine. Croyez-vous cela? C'est ainsi que se présente la vraie prédication de la parole de Dieu. Ce n'est pas une chose qui nous est promise pour après-demain ou pour des temps lointains. Aujourd'hui, nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si Dieu nous a parlé prophétiquement en ce temps prophétique, et nous pouvons dire en toute conscience ce que Pierre a dit autrefois. Et la parole prophétique que nous possédons nous est d'autant plus ferme. Et vous faites bien de veiller sur elle comme sur une lumière qui brille dans un lieu obscur. de Pierre 1, 19. Alors, si nous avons un regard prophétique à travers la parole prophétique, nous verrons le développement de cette époque comme une partie intégrante de la prophétie biblique, et nous ne regarderons pas toutes les circonstances, mais nous fixerons notre objectif sur ce que Dieu a prévu pour l'Église. Nous ne sommes pas destinés à nous attarder sur tout le reste, simplement à l'enregistrer et à reconnaître que tout s'accomplit dans ce temps. Jusqu'à ce qu'ils disent à la fin, maintenant il y a la paix et la sécurité. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Et ne voyons-nous pas cela après toutes ces années de négociations chez les politiciens et à leur table autour desquelles ils étaient assis? Depuis combien d'années négocie-t-on la paix? C'est maintenant qu'il faut passer aux choses sérieuses. C'est maintenant qu'il faut descendre dans la rue. Le temps presse, le temps est là. Il n'y a plus maintenant d'homme politique qui ne peut que faire des paroles et se retirer ensuite. Maintenant, ils sont tous sollicités et doivent tous annoncer la couleur. Et tout se passe comme s'ils allaient dire maintenant, il y a la paix et la sécurité. Alors, c'est là que la ruine les saisira soudain, comme les douleurs d'une femme enceinte, et ils n'y échapperont certainement pas. Vous savez en effet que l'année à venir a déjà été proclamée comme une année sainte. Et parce que le monde entier a peur les uns des autres, je n'ai aucune peine à croire que l'on arrivera plus vite à des négociations de paix et aussi à des résultats comme les gens veulent encore le reconnaître aujourd'hui. Parce que le temps est venu pour cela, est mûr pour cela. Personne ne veut mourir trop vite, mais tous devront mourir ensemble après l'enlèvement. Que ce soit leur solution zéro ou quoi que ce soit d'autre, bien-aimés, cela fait aussi partie de la parole de Dieu. Pas de la politique, mais une partie de la parole de Dieu. Et quand j'ai entendu que l'ennemi jurait de l'évangile parlera de Luther dans les églises, dans les communautés religieuses luthériennes, l'année prochaine, je comprends tout de même ce qui doit être lié à cela. Et vous étonneriez-vous si tout à coup, à la fin de toutes ces conférences, il y avait une canonisation pour que toute la blessure soit guérie. Donc pour que Luther soit déclaré saint, pour que toute la blessure soit guérie, nous ne marchons pas en aveugle sur cette terre. Nous voyons pourtant ce qui se passe sous nos yeux. Et tout le monde chrétien cherche le surhomme dans le monde entier, sauf là où il est assis. Ils lui baisent tous la bague depuis longtemps, s'agenouillent et lui rendent hommage et parlent de la même manière du fait qu'il apparaîtra un jour. Pourtant, il se produit déjà si bien. Il est déjà là et les gens ne le remarquent pas. Il tombe dans le panneau et vous verrez que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité révélée de la parole de Dieu pour ce temps, ils boiront du vin de la fornication et de la prostitution. Et comme l'a prophétisé le prophète Jérémie, les nations ont perdu la raison. Que s'est-il passé? Ils ne savent plus ce qu'ils font. Mais tout est dans le plan de Dieu. Tout cela fait partie de la prophétie biblique. Alors quand nous voyons les choses sous cet angle, nous disons, Seigneur, accélère ton œuvre au milieu des années et accomplis ce que tu as prévu mais laisse sortir ton peuple. Et Dieu veillera à ce que les véritables âmes de l'épouse sortent avant que la porte ne se referme à jamais. Bien-aimés, nous ne vivons plus à l'époque des interprétations, des conjectures, mais à l'époque où la parole sainte et prophétique de Dieu brille dans un lieu obscur comme une vive lumière. Et nous voyons toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Et lorsqu'il est dit aujourd'hui en ce lieu qu'il n'y a pas d'homme politique sur cette terre qui soit aussi au courant des choses que le peuple de Dieu. C'est vrai. Alors cela est vrai à 100%. Le peuple le mieux informé sur terre est l'Église du Dieu vivant, pas les politiciens. Ils ont leurs équipes de conseillers et ils ne savent que ce qui leur a été conseillé ou dit ou ce qu'ils ont eux-mêmes prononcé par la suite. Mais le peuple de Dieu est informé de ce qui se passe maintenant. Et cela devrait nous rendre intérieurement heureux et reconnaissants. Nous devrions rendre gloire à Dieu, et cela de tout notre cœur, aujourd'hui. Le remercier de ce que nous, les plus indignes, les sans espoir, les sans valeur, les personnes qui étaient destinées à ne pas être à la hauteur de ce que justement Dieu nous a appelé, de ce qu'il nous a parlé, de ce que sa parole a été révélée par son Saint-Esprit et de ce que nous pouvons, à l'époque de la confusion totale, traverser cette terre avec clarté jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Je pense que nous devrions remercier Dieu comme Marie l'a fait autrefois, comme Zacharie l'a fait autrefois, comme Siméon l'a fait, comme Anne l'a fait. Dans leur prière, ils ne disaient pas « Seigneur, je te remercie pour le beau temps et pour le fait que nous soyons encore en bonne santé. » Marie ouvrit la bouche et dit « Mon âme loue le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Que fit Zacharie? Des paroles de prophétie, des paroles de Dieu franchirent ses lèvres. Bien-aimés, nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes sous la parole prophétique pour ce temps. Et Dieu nous a donné la lumière et la clarté par grâce. Et nous aussi, nous devrions le remercier du fond du cœur. Au nom de Jésus. Amen. Oh, tu nous fais entrer dans ton temple comme tu y es, comme tu as fait entrer Siméon et Anne. Non pas pour voir selon l'habitude ou la loi, mais éclairé par ton esprit pour voir ce que tu as fait. Je te remercie pour cela et je loue ton nom, Seigneur, dans le monde entier. Nous voyons la parole prophétique s'accomplir et nous entrons dans le temps où ta parole s'accomplit à travers ton Église. Et reçois nos remerciements, nos louanges de la crainte et de l'adoration. Alléluia. À ton Saint-Nom, Alléluia. Alléluia.